En eau profonde, une série de messages qui vous conduisent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le message que vous allez suivre, bien-aimé, est donné par le pasteur Gadi Abraham, président fondateur du Centre évangélique Ebenezer. Il est professeur agrégé de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer notre enseignement sur le leadership avancé. Et nous allons voir aujourd'hui les bonnes attitudes. Comment de bonnes attitudes, les bonnes attitudes donnent de l'altitude. L'altitude est relative à la hauteur. Mais pour monter beaucoup plus haut, il faut avoir de bonnes attitudes. Et je vais en parler en 12 points si possible. Les bonnes attitudes sont extrêmement importantes. Elles sont liées au cœur de l'homme. Ce qui se passe dans notre cœur. Donc ces bonnes attitudes, il faut pouvoir les connaître. Et il faut les développer. Elles sont intérieures et l'aspect intérieur développe l'aspect extérieur. L'une des attitudes qu'il faut avoir, qu'il faut développer, c'est que l'échec n'est pas un problème. Je reviens souvent sur cet aspect dans mes messages. Je le répète. L'échec en lui-même n'est pas un problème. En fait, ce qui compte, ce n'est pas l'échec. Ce qui compte, c'est le résultat. L'histoire ne retient que les victoires. Et ça, c'est un point clé qu'il faut savoir. L'échec a une vocation, nous conduit, nous préparer à remporter la grande victoire. Et nous le trouvons, nous le voyons à travers la vie de Pierre dans Luc chapitre 5. Il est écrit ici, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Bac, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces bacs qui appartenait à Simon, et le pria de s'éloigner un peu des terres, puis il s'assit, et de la bac il enseignait la foule. Verset 4, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et remplit les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient déjà. Amen. On voit l'exemple ici de Simon ou de Pierre si vous voulez. Jésus a changé son nom de Simon à Pierre, qui était un professionnel de la pêche. Il était probablement descendant de pêcheurs. Ça, c'est, on peut le dire. Son père était pêcheur. Son grand-père, c'était mal l'était. Et donc, il a vu, appris à pêcher. Et ce jour-là, on a vu Pierre. Enfin, on l'a vu. Je suis en train d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Il a travaillé toute la nuit. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël de voir un peu ce lac. Il a travaillé toute la nuit. La nuit, c'est vraiment la bonne période pour avoir une bonne pêche. Et malheureusement, Pierre n'a pas connu le succès qu'il escomptait. Ça n'a pas marché. Mais quand on parle de Pierre, on ne parle plus de l'échec qu'il a connu dans sa pêche. On parle plutôt de la deuxième pêche. Celle qui a été couronnée par le succès parce que le Messie, le Christ, le Créateur de toutes choses, le Verbe qui est devenu, qui a tout créé, a parlé et Pierre a connu une pêche miraculeuse. L'échec n'est pas un problème. J'ai dit à une personne que si dans votre vie, vous êtes passé par le chemin de l'échec, l'échec a vocation à vous conduire comme Pierre sur la voie du succès, afin que vous ayez une pêche miraculeuse. Si Pierre n'avait pas connu l'échec dans sa pêche, il n'allait pas rencontrer Jésus. Il serait rentré au village certainement pour vendre ses poissons. C'est parce que Pierre a pêché qu'il est resté, juste au bord, nettoyant ses filets, espérant repartir la nuit. Vous voyez que l'échec nous conduit à rencontrer le Seigneur et à changer de voie et entrer dans notre destinée. Il est souvent donné l'exemple d'un grand homme que nous connaissons ou de même des grandes nations qui nous ont frappés par les succès que ces nations ont connus, par les succès. Et nous ne retenons pas la défaite, nous retenons plutôt leur succès. Je donne l'exemple en matière de sport. En matière de sport, je vais donner l'exemple de quelques sportifs parce que le sport c'est un exercice que des gens, surtout les hommes, mais les femmes aussi regardent. Et généralement, les sportifs les plus connus sont souvent regardés, sont souvent cités en exemple. Juste parce que ça permet à tout le monde d'être d'accord sur les noms. Si donc le nom d'un brillant intellectuel, d'un brillant juriste, vous ne le connaîtrez pas, ça vous dira pas grand chose. Donc, je vais donner des noms des personnes qui sont connues à cause de l'activité de communication faite autour de ces personnes-là. Lorsque nous prenons un boxeur comme Mohamed Ali, il a connu des échecs, il a été battu. Mais Mohamed Ali est reconnu comme l'un des plus grands boxeurs, peut-être le plus grand boxeur de tout le temps. Mais pourtant, il a connu des défaites. On a retenu de lui que les victoires qu'il a connues. Et pourtant, il a été battu plusieurs fois. Mike Tyson aussi, qui avait une force surnaturelle, a aussi été battu. Mais on voit en lui comme le plus jeune champion du monde des poids lourds. Jusqu'à présent, il a été le plus jeune champion du monde de poids lourds. On a retenu que ça, mais aussi par des victoires expéditives. Puisque mettre un KO au premier round, tu vois, en deux minutes, c'est fini, votre sort est scellé. On ne retient de lui que les victoires. Ces victoires éclairent. On ne pense pas à ses échecs. Quand on prend l'exemple du football, on prend l'exemple du Brésil. Le Brésil est le pays qui est le plus capé au monde. Le Brésil a été 5 fois champion du monde. Aucun pays n'a fait mieux que lui. Quand on pense au Brésil, on pense au pays de football. De sorte que quand le Brésil perd, l'échec du Brésil, c'est juste une exception. On considère que c'est exceptionnel, mais on retient toujours le Brésil. Quand le type de football joue un football de très haut niveau, on dit « joue comme les Brésiliens ». Et pourtant, le Brésil a été battu plusieurs fois. Récemment encore, le Brésil a été battu 7 buts à 1. Mais dans 10 ans, même dans 5 ans, on ne retiendrait pas la défaite du Brésil. On retiendrait que c'est la nation qui a le plus remporté de victoires et qui a eu le plus grand football de tout le temps, le roi Pelé. C'est dit que l'histoire ne retient pas l'échec, l'histoire ne retient que la victoire. Je vais parler à une personne qui m'écoute maintenant. Votre vie a été faite d'échecs. Du chèque et du blocage. Ne passez pas tout votre temps à pleurer sur votre sort. Ne passez pas votre temps à pleurer sur vos échecs. Échecs conjugaux, échecs dans les fiançailles, échecs au travail, échecs dans les affaires. Ayez un but en vous. Le plus important, c'est le but final. C'est le succès final. Ce succès va vous élever. Laissez-moi vous dire, quand les Juifs ont attrapé Jésus, l'ont arrêté, tous ses disciples ont fui parce que pour les disciples, c'était la fin de Jésus. C'était la fin de son histoire. Quand il a été jugé et condamné à mort, et qu'il a été crucifié ce jour-là, pour les disciples, c'était la fin. C'était l'échec. La mort de Jésus-Christ a été considérée par les disciples comme un échec. Je le dis parce que quand il est ressuscité, quand Marie et Madeleine allaient dire qu'il est ressuscité, ils n'ont pas cru. Parce que pour eux, Jésus-Christ mort, c'était la fin. Oh, justement, la mort de Jésus-Christ a préparé sa victoire, a préparé sa résurrection. Je dis, vous parle ce matin, ou ce soir, ou peu importe l'heure, ou ce midi, peu importe, votre échec va préparer votre succès. L'échec est comme un tunnel. C'est comme un tunnel. Vous êtes dans l'échec actuellement, vous êtes dans le tunnel. Mais le tunnel va vous conduire à la victoire prochaine. Vous allez sortir du bout du tunnel et avoir la grande victoire. Nous avons aussi parlé, j'ai appris l'histoire d'un des plus grands présidents américains, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, qui a compris que l'échec n'est pas un problème, que ce qui compte, ce qui est important, c'est le résultat. L'échec permet d'avoir une expérience, d'acquérir une expérience, de sorte que progressivement on parvient à maturité. Parce que si quelqu'un rapporte une victoire soudaine et rapide, sans expérience, cette personne aura tendance à être orgueilleuse, à mépriser les autres, à cracher sur eux, à penser que ceux qui sont dans l'échec ne valent rien, ne sont rien. Non, l'échec prépare, nous donne d'avoir l'épaisseur psychologique, l'épaisseur spirituelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Vous voyez, les bonnes attitudes, l'échec n'est pas un problème. L'échec conduit à la victoire. Donc, je reviens à l'histoire d'Abraham Lincoln, cet homme qui a été président des États-Unis. Il a fait faillite à l'âge de 31 ans dans ses affaires. Il a été battu aux élections législatives aux États-Unis à 32 ans. Il a fait une seconde faillite à 34 ans dans ses affaires. À 35 ans, il a perdu sa petite amie. À 36 ans, il a fait une dépression nerveuse. À 38 ans, il a été battu aux élections locales pour être maire ou aux États-Unis, on parle de comté. À 48 ans, il a été battu aux élections au Congrès. À 46 ans, il a encore été battu aux élections au Congrès. À 48 ans, il a encore battu aux élections au Congrès. À 55 ans, il a été battu pour les élections au Sénat. Et puis, à 56 ans, il n'a pu s'inscrire à la vice-présidence. Il devait être candidat à la vice-présidence. Il n'a pas pu s'inscrire. À 58 ans, il a été battu en cause d'élection au Sénat. Et puis, tenez-vous bien, à 60 ans, cet homme a été élu président des États-Unis d'Amérique. Et c'est lui qui a aboli l'esclavage. Il est reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands présidents américains, Abraham Lincoln. Voici le nombre d'échecs qu'il a connu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 échecs. Et c'est à 60 ans qu'il a connu le succès. Donc, il a passé environ quasiment 30 années, 29 années d'échecs. Il a connu 29 années d'échecs. Et à 60 ans, il est devenu président des États-Unis et est reconnu comme l'un des présidents les plus importants. Même l'actuel président américain, Barack Obama, s'est inspiré de lui. C'est de lui qu'il s'est inspiré en lisant son discours d'investiture. Il s'est inspiré d'Abraham Lincoln et il a pris même la Bible d'Abraham Lincoln. Voici un homme qui a échoué, mais qui n'a jamais perdu sa confiance en Dieu. Je parle à un homme, je vous parle à un homme, à une femme. Ne laissez pas vos vies être paralysées par l'échec. L'échec n'est pas un problème. L'échec vous prépare à la victoire. Le grand Moïse, le plus grand leader de l'Ancien Testament. Moïse a commencé son ministère par un échec. Il a voulu délivrer Israël par sa propre main. Il a tué une fois, enfin, la veille, il avait tué un Égyptien. Il est revenu plus tard le lendemain, espérant hériter le même exploit. Il a été découvert, il s'est caché, il s'est enfui. Moïse, le prince en Égypte, prince préparé, destiné à être pharaon, il a dû s'enfuir. Il s'est réfugié quelque part à Mendiant pendant 40 ans. Un prince qui parlait, qui crachait du feu. Étienne dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre, mais au désert, il avait perdu tout cela. C'est un homme qui dirigeait des hommes, a commencé à diriger des animaux, des bœufs, des moutons, des chèvres. Imaginez un peu. C'était une chute. Être au sommet dans la nation la plus puissante de l'époque, s'asseoir à la table du pharaon, manger, boire ce que le pharaon mangeait, buvait, et se retrouver dans un désert de mendiants derrière les animaux, derrière les moutons, derrière les bœufs, ça, c'est une descente. C'est une chute vertigineuse. Quelqu'un dit descendre aux enfers. Mais non, je n'emploie pas sur ce mot-là. Mais c'est là-bas, au sein de l'échec, que Dieu est parti chercher Moïse et Dieu l'a élevé. L'échec avait pour but de l'essorer, d'enlever ses attitudes, c'est ce qu'il avait eu comme habitude, comme orgueil en Égypte, le libérer, le purifier. Et après, Dieu lui dit maintenant, après ce temps-là, tu repars là où tu as fui. Je dis à quelqu'un, vous repartirez. Et là où vous avez fui, vous allez là-bas affronter les circonstances, vous les gagnez. Dans les mêmes circonstances, dans le même fleuve où la même mer où Pierre a fait sa pêche, sa première pêche qui n'a pas été couronnée de succès, Pierre a fait la pêche quasiment dans les conditions un peu plus différentes, un peu plus difficiles, mais là où Pierre a joué, Pierre a connu le succès. Je déclare sur vous aujourd'hui que l'échec ne sera pas pour vous un problème. Vous ne mourrez pas dans l'échec, vous ne mourrez pas dans la maladie, vous ne mourrez pas dans la pauvreté, vous ne mourrez pas dans la misère, vous sortirez de là debout, vivant, avec vos deux pieds, vos deux mains, célébrant Dieu, témoignant, parcourant les maisons, parcourant les amis, les quartiers pour dire, oui, le Dieu que j'ai connu m'a pris de la poussière, il m'a élevé, il m'a fait asseoir avec les grands. Je dis à une personne ce matin, ce midi ou ce soir, l'échec n'est pas un problème. On prend aussi l'exemple de Thomas Edison, qui a créé la lampe incandescente, l'ampoule que vous connaissez, pour faire un peu plus simple. Selon l'histoire, cet homme a essayé ou aurait essayé, figurez-vous, 9999 fois. Il a essayé à plusieurs reprises. Ça n'a pas marché. Et chaque fois, on lui demandait, mais il a passé toute sa vie à faire cela. On lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que tu as échoué encore? Il dit non. Il répond ceci, je n'ai jamais échoué. J'ai seulement découvert une nouvelle façon de ne pas inventer l'ampoule électrique. Voici ce qu'il répondait. Il dit non, je n'ai jamais échoué. J'ai seulement découvert une nouvelle façon de ne pas inventer l'ampoule électrique. Vous n'avez pas échoué. Vous avez découvert la façon de ne pas recommencer à zéro dans les mêmes conditions. Changez de fils d'épaule. Revoyez votre façon de voir les choses. Je vais dire une chose. L'échec n'est pas un problème. Le succès fournit, je dis, l'échec fournit les clés du succès. L'échec fournit les clés du succès. Et l'échec est notre face. La face visible du succès. Le succès est à l'intérieur. Le succès se trouve en vous. Il est enfui en vous. Et ce qu'on voit aujourd'hui de vous, c'est un homme qui a échoué, une femme qui a échoué, qui n'a pas de valeur. Mais votre succès qui enfuit va apparaître. Il va apparaître. Votre succès va briller et sera excellent. Moi qui vous parle, je connais l'échec dans mes études en droit. Je connais l'échec en droit ici. C'est vrai que la seule année que j'ai doublé, c'était la deuxième année. Et ça a été pour moi catastrophique. Parce que je me suis dit, bon, Dieu m'a fait la grâce d'être intelligent et d'avoir les capacités d'arriver loin. J'ai connu l'échec en deuxième année. Et avec toutes les grèves qu'il y avait à Cocody, j'ai dû aller au Burkina Faso. Et bien sûr, dans des conditions tout à fait différentes parce qu'on ne pouvait plus ici à cause des années blanches et des situations difficiles, des grèves qui n'en finissaient pas. Donc, j'ai dit, ok, ici, ça va être difficile pour moi. Parce qu'à l'époque aussi, j'étais très engagé dans les. Il était très, très chaud, très, très étudiant. Vous voyez, les étudiants sont toujours très chauds, toujours dans les manifestations. Et j'ai dû aller à l'extérieur. Et c'est là-bas, au Burkina Faso, que Dieu m'a ouvert les portes du succès. Dieu m'a ouvert les portes du succès. Et je me rappelle, un soir, j'étais dans une église évangélique à Cocody, à Abidjan. Dans cette période difficile où les années blanches se succédaient à l'université de Cocody, à Abidjan, avec les grèves, le taux de succès qui était très bas, avec les problèmes qu'il y avait, il y a Dieu. Mes études constituent le seul point. Si vous voulez, je parlais comme un homme. Il dit, Seigneur, mes études constituent mon espoir. J'ai failli dire mon seul espoir. Et si jamais ça ne marche pas, si une porte n'est pas ouverte et que j'arrête comme ça en deuxième année parce que c'est difficile pour moi, il y a des blocages partout, il y a des années blanches, je n'ai pas les moyens, Seigneur, ça va être difficile. Et j'ai dit à Dieu ce jour-là, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir 5 succès successifs. J'ai bien noté, j'ai bien parlé. Dieu, fais-moi la grâce d'avoir 5 succès successifs. À vous qui m'écoutez, demandez quelque chose de précis à Dieu. Ça a été précis. J'ai demandé à avoir le doc 2. J'ai demandé à avoir la licence. J'ai demandé à avoir la maîtrise. J'ai demandé à avoir le 2A. J'ai demandé à avoir le doctorat. J'ai bien compté. Je vous assure. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Dieu m'a fait la grâce d'avoir ces 5 succès successifs sans avoir échoué. Complètement. Doc 2, la licence, la maîtrise, le master 2. Le master, c'est en France, ce que j'ai fait, c'est en France. Et le doctorat, avec la mention la plus élevée, très honorable. Et la félicitation et les félicitations du jury. Je dis à une personne qui me parle, qui m'écoute, Dieu fait grâce. Et plus tard, 4 ans après, j'ai été admis au concours d'agrégation avec le rang de major sur 28 candidats venant de 14 pays africains. Je parle du concours d'agrégation enseignement supérieur, CAMES, enseignement supérieur, en droit public. L'échec n'a pas pu me bloquer. L'échec m'a conduit simplement à aller rencontrer ma destinée au Burkina Faso pour que justement je sois dans le ministère parce que j'avais jamais rêvé être serviteur de Dieu. Chers frères, chers sœurs, vous qui passez par des périodes d'échec, vous qui passez par le tunnel de l'échec, la vocation de l'échec, ce n'est pas de vous détruire, ce n'est pas de vous anéantir, ce n'est pas de vous broyer, ce n'est pas de vous écraser, c'est pour vous conduire à l'autre bord. Je vous parle maintenant, Dieu vous destine à passer à l'autre bord. Vous n'allez pas vous noyer, vous noyer. Vous ne mourrez pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement là. Vous allez rencontrer votre destinée. L'échec va vous amener à faire confiance à Dieu, à rencontrer un homme ou une femme avec qui vous serez en connexion. Et avec la connexion que Dieu vous donne, votre vie va changer de direction. Ma vie a changé de direction sur le plan spirituel depuis ma rencontre avec le pasteur Karambili. Et puis ce que Dieu voulait faire de moi, Dieu l'a accompli. Je n'avais jamais rêvé. J'avais pensé un jour faire un doctorat, devenir docteur en droit. Mais je n'ai jamais rêvé que je serais professeur agrégé. Jamais, 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 jamais. On m'a forcé à faire le concours d'agrégation. Et je vous dis, l'échec n'a pas été un problème puisque Dieu s'est glorifié avec le rang que j'occupais comme major en étant, n'est-ce pas, premier en droit public. J'ai donné mon témoignage ici pour que vous sachiez une chose. Votre échec ne vous conduira pas à la perte. Votre chèque vous conduit au succès. Votre chèque vous conduit au succès. L'échec fournit les clés du succès. Je déclare ces paroles sur vous. L'excellence est sur vous. La grâce est sur vous. N'est-ce pas? La bénédiction est sur vous. Donc, si vous avez la bonne attitude, que l'échec n'est pas un problème, vous ne mourrez jamais dans votre situation. Vous direz, je me lèverai, je vivrai. Vous voyez le jeune homme qui était le fils prodigue. Il a connu un échec dans la gestion de son patrimoine. Un juge l'a dit ceci. Mon père a beaucoup de biens. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Traite-moi, je peux dire, d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des mercenaires. Le père l'a reçu, le père l'a embrassé. Il lui a enlevé les vêtements de chair qu'il portait, la déchéance morale qu'il avait sur lui. Il a vêtu d'habits royaux, il lui a donné un anneau, il a célébré comme jamais auparavant. Je dis maintenant ce jour-là, quand vous serez célébré, quand vous reviendrez de votre chemin d'échec, Dieu va vous célébrer. Les personnes qui vous ont rejeté vont composer avec vous. Elles vont vous célébrer. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, déjà, me célèbre à cause du succès que j'ai pu avoir à l'école, à cause de la grâce de Dieu. J'ai dit, la même grâce qui est sur moi vient sur vous et Dieu se glorifie. J'ai dit à un homme, à une femme, l'échec n'est pas un problème. L'échec vous conduit au succès. Ce qui compte, une seule chose compte, c'est le résultat final. Le départ ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'arrivée. Et je sais une chose, Dieu se glorifie. La seconde bonne attitude qu'il faut avoir, afin d'être un leader qui gagne, d'avoir du succès dans ce qu'on fait, il faut savoir une chose, c'est que rien n'est jamais définitivement acquis ou perdu. Que celui qui a une position élevée ne dise pas c'est terminé, c'est fini. S'il n'éveille pas, il peut tout perdre. Il faut avoir une attitude d'humilité. Rien n'est définitivement acquis et rien n'est définitivement perdu. Aucune cause n'est perdue d'avance, mais rien n'est définitivement aussi acquis. Je pense à un homme comme Nebuchadnezzar. Cet homme qui avait droit de vie et de mort dans Daniel, un homme puissant, un homme fort. On le voit dans Daniel chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, un homme puissant et fort. Ce Nebuchadnezzar pensait que rien n'allait lui arriver. Il avait acquis ses forces. Ce Nebuchadnezzar-là, homme fort et arrogant, a été humilié. Son cerveau, son intelligence a été remplacée par un instinct animal. Il a brouté de l'herbe pendant 7 ans. C'est quand il est revenu à Dieu qu'il a fait la prière de repentance que Dieu l'a relevé après 7 ans. Rien n'est définitivement acquis. À ceux qui sont orgueilleux, qui sont sur leurs chevaux, qui tapent leur poitrine, je vous dis, rien n'est définitivement acquis. On peut tout perdre à tout moment, à tout moment. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire comme Moïse. Oh Dieu, apprends-moi à compter mes jours et à marcher dans tes voies. Psaume 90, c'est important à comprendre. On doit dire à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. On doit composer avec Dieu. On le voit aussi avec le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar. Belshazzar était un homme puissant. Il avait succédé à son père et il croyait que rien ne pouvait lui arriver. Il était sûr et certain qu'il avait tout ce qu'il fallait. Nous le voyons dans Daniel chapitre 6. Mais un peu plus tard même, on le voit plus tard comment les choses vont se passer. Quand Belshazzar a commencé à dire des choses grossières, à proclamer. Non, c'est chapitre 5, je me suis trompé. Au chapitre 5 du livre de Daniel. Lorsque Belshazzar a tapé sa poitrine, était sûr de lui-même. Et une main a écrit. Et je lis le passage là, le verset 17 maintenant. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Je lui en donnerai l'explication. Verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Cet homme était sûr, Nebuchadnezzar était sûr de son fait. Il pensait que tout était définitivement acquis. Dieu l'a dépouillé, Dieu l'a précipité, comme tantôt j'ai eu à le dire. Verset 21. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es levé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, des reins, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Pesé et divisé. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton règne sera divisé et donné aux maîtres et aux pètes. Aussitôt, Belshazzar donna les ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le maître, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Voici une fin triste d'un homme qui pensait qu'il avait tout acquis et que rien ne pouvait lui arriver. Il était sûr que rien ne pouvait lui arriver. Je dis, la bonne attitude, c'est de ne jamais penser que nous avons tout définitivement acquis ou que tout est perdu. Nous avons appris l'histoire, nous enseigner que quand les hommes, ces grands navigateurs, ces grands penseurs, ces grandes personnes ont creusé, ont fabriqué, étant en train de construire, n'est-ce pas, ce grand bateau qu'on appelait, qu'on appelle Titanic, ils se sont dit, ce bateau, ce navire ne coulera point. Ils ont même dit, même Dieu ne peut pas l'empêcher de couler, même Dieu ne peut pas l'empêcher d'arriver à destination et que ce bateau ne coulerait jamais. Titanic a marqué l'esprit. Un film a été réalisé sur Titanic. Ce bateau-là, qu'on appelle Titanic, n'est jamais arrivé à destination. Jamais. Ce bateau n'est jamais arrivé à destination à cause de l'orgueil des concepteurs qui ont dit que même Dieu ne pouvait pas l'empêcher d'arriver à destination. Ce bateau n'est jamais arrivé à destination car ils ont lancé un défi au grand Dieu. Faisons attention à nos acquis et à ne penser et à croire que rien ne peut nous arriver. Quand on pense que rien ne peut nous arriver, en réalité, on n'est pas loin de notre fin. En réalité, on n'est pas loin de notre fin. On n'est pas loin de notre chute. Chaque fois que nous pensons que nous avons acquis nos richesses, nous avons acquis nos biens. La Bible déclare par l'épouse de l'apôtre Paul que celui qui est debout prenne garde de tomber. Vous voyez, la deuxième bonne attitude qu'il va avoir, c'est de dire que rien n'est définitivement acquis ou rien n'est définitivement perdu. Je vais vous donner un exemple dans l'histoire. L'Empire romain a été considéré comme l'un des empires les plus puissants, mais aussi l'un des empires les plus méchants. L'un des empires les plus puissants, mais l'un des empires les plus puissants également. Personne ne peut imaginer comment cet empire-là, qui régnait de l'Afrique jusqu'en Europe, même jusqu'en Asie, pouvait chuter. Personne ne pouvait imaginer que l'Empire romain chuterait un jour. Jésus-Christ est né pendant le règne de l'Empire romain. Les Juifs l'ont rejeté parce que les Juifs pensaient que le Messie qui viendrait allait secouer l'Empire romain, allait secouer les maîtres, les dominateurs, les renverser, les briser, détruire leur pouvoir et voir ainsi le Messie régner physiquement, politiquement, économiquement et en même temps spirituellement. Et quand Jésus a commencé à le prêcher, il a dit ceci, que mon royaume n'est pas de ce monde, il n'a pas cru en lui, mais toi t'es qui ici? Nous, on veut un Messie qui va nous délivrer du joug que fait peser sur nous les Romains. Maintenant, vous voyez, l'Empire romain était donc un empire puissant et fort. Comment cet empire pouvait chuter? Comment c'était possible? Vous savez une chose, l'histoire nous le dit. Les Romains ont appris qu'un peuple qu'on appelle les barbares, c'est un peuple, s'entraînait contre eux. Les barbares n'étaient pas lettrés. Ils étaient des illettrés. Ils étaient sales. Imaginez un peu. Ils n'étaient pas lettrés. Ils étaient sales, ils étaient un peu désordonnés. Mais les barbares avaient en eux cette détermination de porter le coup fatal, ce coup à l'Empire romain. Et ils se sont entraînés. Et ils ont réussi à renverser l'Empire romain qui est tombé sous le coup des barbares. Un peuple qui était moins puissant, qui était sale, qui était illettré. Ce peuple a vaincu l'Empire romain, un empire puissant, un empire fort. Une autre exemple aussi que nous donne l'histoire à travers l'histoire, c'est l'Empire égyptien. L'Empire égyptien a été battu par les Hikios. Hikios. H-Y-T-O-S. Hikios. C'était un peuple qui était un peuple sale, indiscipliné. Mais ils s'étaient entraînés. Et ils sont attaqués à l'Empire égyptien. L'Empire égyptien est tombé. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Quand Moïse affrontait le pharaon, mais il était sûr d'eux. Le pharaon m'a dit à Moïse, mais c'est qui ton Dieu? C'est qui? Comment il s'appelle? Pharaon est tombé. Chers frères, chers soeurs, chers amis, quand on pense qu'on est debout, qu'on est arrivé, notre fin n'est pas loin. Deuxième attitude, rien n'est jamais définitivement acquis, mais aussi rien n'est jamais définitivement perdu. Je dis à une personne, toi qui penses que vous êtes perdu, ce n'est pas vrai. Lisez la Bible, lisez Ézéchiel 37. Le peuple a dit, notre espérance est perdue, nous sommes morts. Dieu a pris Ézéchiel, l'a transporté en esprit dans la vallée de ossements desséchés. Il lui demande, Ézéchiel, c'est mon serviteur. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel est honnête, je suis d'accord avec lui. Je redis la même chose. Peut-être que Magéla même dit que ce n'est pas possible. Ézéchiel dit, je ne sais pas. Dieu dit, prophétise. Je dis à une personne, rien n'est définitivement perdu. Aucune cause n'est perdue. On dit souvent en français, de manière courante, que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que tu vis, l'espoir existe. Tout peut se faire au dernier moment. Tout peut se faire au dernier moment. Tout est possible au dernier moment. Rappelez-vous, la Bible nous donne l'exemple d'un homme qui pensait que tout était perdu, ce brigand à la croix, pensait que son sort était scellé, était brigand, était méchant. S'il mourait, il partait en enfer direct. Sans miséricorde. Là, suspendu entre les cieux et terre, voyant son sang gicler de son corps et voyant la mort venir à grande vitesse, TGV devant lui, cet homme a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Écoutez la déclaration de cet homme. Quand on écoute sa déclaration, qu'on la lit attentivement, on se rend compte que cet homme avait une foi extraordinaire. Un, pour que Jésus-Christ revienne dans son royaume, cela supposait que Jésus-Christ qui allait mourir dans les heures qui allaient suivre, allait ressusciter. Il croyait en sa résurrection. Un, il croyait à la royauté de Jésus-Christ. Puisqu'il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Donc, il croyait que Christ allait ressusciter. Donc, il croyait à sa résurrection. Là où même les disciples n'ont pas cru, là où les pieds, les gens n'ont pas cru à sa résurrection, ce brigand à la croix a cru à la résurrection de Jésus-Christ. C'est puissant comme révélation. Il a cru à sa résurrection. Deuxièmement, il a cru qu'il était effectivement le roi des rois et le Messie promis, puisqu'il dit, il dit, quand tu reviendras. C'est-à-dire qu'il croyait que Christ allait ressusciter, qu'il allait effectivement régner. Jésus lui a dit, ce jour-là, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit, tu seras avec moi dans le sein d'Abraham. Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Depuis la mort de Christ et sa résurrection, le ciel est ouvert. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, il pouvait penser de manière légitime que son sort était scellé. Je vous dis, votre sort n'est pas scellé. Rien n'est définitivement perdu. Vous pouvez vous relever et toutes les portes qui sont fermées peuvent s'ouvrir. La troisième attitude qu'il faut avoir, une bonne attitude, afin d'avoir l'attitude de monter très fort, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il faut le croire. Quand on dit qu'avec Dieu, tout est possible, on a tellement entendu cette phrase qu'on a du mal à croire qu'avec Dieu, tout est possible. Je vous dis pourquoi avec Dieu, tout est possible. Pourquoi? D'abord, il faut savoir que Dieu, il faut savoir qu'avec Dieu, on n'a pas affaire à un Dieu parmi les dieux. On a affaire au Créateur. Si nous avons la révélation de manière claire et nette que Dieu est le Créateur, tout est possible. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse dire Amen avec moi. Imaginez un peu. Si vous avez la révélation, si on a la révélation que Dieu est le Créateur, c'est lui qui est le Créateur, c'est lui qui crée toutes choses, toutes choses subsistent par lui et tout vient par lui. Alors, quand je dis avec Dieu, tout est possible, si pour vous, rien n'est encore possible, il faut croire que Dieu, qui est le Créateur, peut tout faire. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il va créer. Supposez que vous êtes dans un cas de maladie. Dès lors que vous comprenez que Dieu est le Créateur, c'est lui qui vous a créé. David le dit dans Psaume 139. C'est toi qui m'as conçu dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et tu as fixé les jours qui m'étaient destinés. Oh Dieu, je suis une créature si merveilleuse. David le dit. Donc, si Dieu est le Créateur, ça veut dire que si mon corps est malade, je dois croire que Dieu est capable de créer pour moi un nouvel organe. Yes! Il est capable de créer un nouvel organe. Si c'est mon pied qui est tordu, c'est l'os qui est cassé, Dieu est capable de créer un nouvel os. Les mécaniciens réparent. Mais le concepteur lui conçoit. Donc Dieu est créateur, c'est-à-dire que Dieu est un concepteur des choses nouvelles. Si le corps est défaillant, Dieu va remplacer les organes qui sont défaillants. Si ce sont les dents, ce sont les yeux, les narines, si c'est les intestins, si c'est les trompes, l'utérus, ou les testicules, ou bien les spermatozoïdes, ou bien, je ne sais pas, la peau, ou la chair, ou le sang, Dieu est capable, les homoglobules blancs ou rouges, les nerfs, Dieu est capable de les créer puisqu'il est le Créateur. Il a créé une fois, ça veut dire qu'il peut créer deux fois. Yes! Il peut créer trois fois. Donc, quand je dis que avec Dieu tout est possible, je dis que le Créateur peut tout faire. Maintenant, regardons bien. Ce qui se trouve dans la nature vient de Dieu. Et c'est avec les éléments de la nature qu'on a créé les choses. Donc, quand je dis que Dieu est le Créateur, je dis que ce qui existe dans les cieux, sur la terre, lui appartient, c'est lui qui les a créés. Or, si le Créateur de toutes choses est avec moi, ça veut dire que tout ce qu'il a créé est à ma disposition. C'est le langage spirituel que je parle. Dieu étant mon Créateur, ce qu'il a créé est à ma disposition. L'or a été créé par Dieu, se trouve sous le sol. L'or est à ma disposition. L'argent lui appartient, c'est à ma disposition. Les plantations, la terre lui appartient. Tout ce que l'eau lui appartient, tout ce qu'il a créé est à ma disposition. Puisque moi, je crois en lui, il est avec moi, il est en moi par son Esprit Saint. Donc quand je dis que avec Dieu, tout est possible, je dis bien que le Créateur a rendu toutes choses possibles parce qu'il peut tout créer, il peut tout recréer. C'est pourquoi dans la bague, dans la barque, ou si vous voulez dans le bateau, lorsque les disciples ont eu peur, Jésus s'est levé et l'a menacé. Il a dit, mais on ne peut pas prendre l'incrédulité, tout cela. Il a menacé la mer, il a parlé à la mer s'est calmée. La mer ne pouvait pas l'engloutir pour une raison tout à fait très simple. C'est que le Créateur était là. Le Créateur a été reconnu par la créature. Ça veut dire que si Christ s'enfonçait, ce qui est impossible, le Créateur ne peut pas s'enfoncer dans sa créature. Donc, quand nous avons la révélation, ou si nous avons la révélation que notre Dieu est le Créateur, nous devons croire et commencer à déclarer que tout est possible. À vous qui pensez que les sorciers vous ont attaché, vous ont lié, sachez que les anges de Dieu sont plus nombreux et plus puissants que les sorciers, les démons qui sont avec lui. Que vous pouvez dire amen. Sachez une chose, si vous pensez que les portes vous sont fermées, Dieu peut envoyer ses anges ouvrir les portes qui sont fermées. Je déclare cela sur vous. Je proclame ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela, croyez-le. Tout est possible. Et tout ce que Dieu fait a un but. Ça doit nous amener à croire cela. Marie avait du mal à croire que elle, qui n'avait jamais connu d'homme, elle pouvait avoir un enfant. Et Marie dit à l'ange Gabriel, comment cela va se faire? Et l'ange lui dit, alléluia, que le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je lis ce passage-là. Luc chapitre 1, le verset maintenant 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. La puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit viendra. Je dis à une personne qui est en train de traverser une situation difficile, le Saint-Esprit qui est au commencement de la création, les lignes de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 2, verset 3. Vous voyez, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu a parlé. L'Esprit de Dieu était là. Et quand l'ange a parlé, la fécondance a eu lieu dans l'Esprit de Marie puisque le Saint-Esprit est Esprit. L'Esprit Saint a fécondé l'Esprit de Marie et l'Esprit maintenant a agi sur le corps et Marie est devenue une femme enceinte. Je rends grâce à Dieu ce jour-là pour vous dire en ce qui vous concerne que tout ce qui vous arrive et qui vous paraît impossible, c'est souvent impossible pour nous et pour vous, nous qui sommes les êtres humains. Mais pour Dieu, c'est pas impossible parce que mon Dieu et ton Dieu est le Créateur et à cause de ce qui est le Créateur, tout ce qui a été détruit, anéanti en vous est restauré. Vos sentiments sont restaurés. Vos foyers sont restaurés. Pourquoi? Mais parce que Dieu est le Créateur. Quatrième bonne attitude qu'il faut avoir. Et ça sera la dernière avant de pouvoir passer à une autre attitude. Tout événement doit nous servir. C'est-à-dire que Dieu fait tout pour un but. On doit le comprendre clairement. Tout événement, Dieu fait tout pour un but. Ce qui nous amène à pouvoir faire en sorte à tirer ou à savoir tirer les leçons des événements ou des situations. Tout événement qui vous arrive, toute situation, heureuse ou malheureuse, douloureuse ou heureuse, vous devez l'examiner et en tirer les leçons. L'expérience enrichit. L'expérience permet d'avoir la sagesse. Il y a une différence entre l'onction et la sagesse et l'expérience. L'expérience, on l'acquiert à travers cette situation parfois difficile, à travers ce qu'on appelle maladroitement l'échec, mais en réalité, qu'on constitue une préparation au succès. Donc, quand nous examinons nos vies ou les différents aspects de nos vies, on doit savoir que tout événement doit nous servir et on doit s'asseoir pour examiner chaque situation. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça n'a pas marché? Un étudiant peut échouer à son examen. Au lieu de passer d'abord la première réflexion consistant à accuser les sorciers du village, son père, le professeur méchant, il est trop dur. Non, il examine pourquoi ça n'a pas marché. Au lieu d'accuser les Européens, les Occidentaux de nous exploiter, pourquoi nous, pays africains, pourquoi nous sommes si pauvres, pourquoi on n'arrive pas à exploiter nos ressources? Parce que nous, on se vend les uns, on se vante nous-mêmes et on vend nos biens aux autres. Lorsque une femme a un problème avec son mari, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Si votre mari vous trompe et qu'il va avec une petite fille, demandez-vous pourquoi il vous trompe. Pourquoi? Je ne suis pas en train de justifier les adultères. Non, je dis que chaque fois qu'un événement vous arrive, asseyez-vous et cherchez à tirer les leçons. On peut tout apprendre de n'importe quelle situation. Tout dépend de comment on la regarde. On parle d'un grand sculpteur. On parle de Michel-Ange et tous ces grands sculpteurs. Et quand il voit un bois, pour nous c'est un bois, mais pour lui, comment tirer de ce bois, de ce table qui est là, comment tirer une belle statue? On peut prendre une grosse pierre. Comment tirer un homme, un géant à travers ces pierres-là? Tout dépend de comment on regarde une autre situation. Je dis qu'il faut savoir tirer les leçons de tout. De tout. Même souvent les maladies qui nous arrivent, c'est parce qu'on est sale. C'est parce qu'on est sale, on ne se repose pas suffisamment, on ne prend pas soin de son corps. On mange mal, on mange gras, on mange sucré. On a les deux grands défauts. On mange sucré et on boit sucré. Un, on mange gras et on boit gras. Donc finalement, quand on mange sucré et on boit gras, forcément, tu es malade. Ça n'a rien à voir avec Dieu. L'hypertension, les soucis inutiles, passer son temps à m'aider sur son sort, à réfléchir. Ah, vraiment, je suis abandonné. Dieu ne m'aime pas du tout. Ouais, on crée notre propre mort. C'est pourquoi, quand une situation arrive, mais je dis, vous ne mourrez pas. Je suis en train de changer les choses. C'est pendant que je vous parle, je vois des renversements de situations se produire. Je dis bien, je vois des situations être renversées. Ce qui était tordu en vous est en train d'être renversé. Votre âme soit positionnée à la bonne direction afin que vous puissiez aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je dis maintenant, écoutez une chose, les événements qui vous arrivent ont un but. Ont un but. Il faut les analyser, je parle des événements, un à un, et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Il faut chercher à renforcer, à fortifier vos points forts, ça c'est une méthodologie, mais à relever et à réduire vos insuffisances et vos limites. Si nous agissons ainsi, nous aurons de grandes victoires. Je déclare que ces grandes victoires vont et sont en train de se manifester. Il est important d'avoir ça à l'esprit. J'avais déjà m'arrêté sur le quatrième point, mais je vais m'arrêter finalement sur le cinquième point. Cinquième point, c'est se concentrer sur son potentiel ou se concentrer sur ses points positifs. Examinez-moi vos vies et cherchez à renforcer vos points forts. Je vais revenir sur ça la prochaine fois, sur cet aspect-là. Voyez, David s'est concentré sur son point fort. David avait eu à combattre, bien sûr, dans l'apprentissage qu'il avait, les ours, les lions. Il avait appris à manipuler les pierres, lance-pierre. Il avait appris à manipuler ça. Devant Goliath, n'a pas pris une lance. Parce que David n'était pas habitué à la lance. Il n'était pas habitué au javelot. Il était habitué à quoi? Aux pierres. Donc, il a concentré ses forces sur ses pierres. Et sont ces pierres, n'est-ce pas, sur lesquelles il s'est concentré parce qu'il avait certainement appris à les manipuler. C'est avec ces pierres-là que David a vaincu Goliath. Vous allez vaincre avec les points forts que vous avez en vous. Quel est votre potentiel? Quelle est votre capacité? Vous êtes intelligent? Vous savez écrire? Vous savez avoir des belles relations? Vous êtes présentable? Utilisez vos points forts. Développez-la. Développez-les plutôt. Développez ces points-là. Creusez-les. Allez en profondeur. Ne méprisez pas ce que Dieu a déposé en vous comme potentiel. Ne méprisez pas ça. Mettez ça en valeur. Dans Luc chapitre, Matthieu chapitre 25, celui qui avait reçu un talent, il a été condamné parce qu'il a caché le talent que son maître lui avait donné. Sachez une chose, ce qu'on a comme talent, comme potentiel, comme intelligence, comme sagesse, comme relation, comme argent, comme moyen financier, ce n'est pas pour nous. C'est pour qu'on soit une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, tu deviendras, tu seras une source de bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 2, verset 3. Je déclare sur vous que vous serez une source de bénédiction. Mettez l'accent sur vos points forts. Travaillez-les. Travaillez-les. Si vous savez chanter, mettez l'accent sur les chants. Même nous les pasteurs, chacun a son onction, chacun a son potentiel. C'est des pasteurs qui sont très forts dans la prédication de la parole de Dieu. Ce sont les points forts. Il y en a qui sont très forts dans l'évangélisation. D'autres sont forts en même temps en chantant et puis en prêchant. Il y en a qui sont forts dans les révélations. Chacun a reçu un don. Dieu ne peut pas nous appeler et puis ne peut pas nous doter de dons qu'il faut. On a des dons. Donc on met l'accent sur notre potentiel, sur ce qui fait nos points forts. Et on développe nos points forts. On les développe, on les développe, on les développe. Je vais donner un exemple encore tiré du sport. Vous m'excusez, mais parce que dans la vie, on doit pouvoir être enseigné. On a souvent parlé de Mohamed Ali. Mais savez, ceux qui l'ont connu, bon, ceux qui l'ont connu, même sur YouTube, vous pouvez voir ça, n'était pas physiquement quelqu'un de très, très fort. Mais il avait des points forts, c'est qu'il était très intelligent, il était très mobile. Il était plus mobile que les autres poids lourds. Donc, en face d'un adversaire, il savait être mobile. Donc, il épuisait ses adversaires par sa mobilité, par ses jeux de jambes. C'est comme ça qu'il a vaincu les gens forts au monde. Donc, nous devons comprendre que nous devons développer nos points forts. Ce qu'on sait faire le mieux, concentrons-nous et faisons cela. Si nous avons pris, nous sommes des hommes d'intercession. Faisons intercession. Même à l'école, il y en a qui sont très forts en mathématiques. Ils doivent développer leur capacité en mathématiques. Il y en a qui sont très forts en langue, en anglais, en français, en histoire géo. Chacun doit savoir ses points forts, les développer. Mais bien sûr aussi, en développant ses points forts, il faut faire en sorte que ses points faibles également soient relévés. Parce que s'il peut avoir un trop grand écart entre ses points forts et ses points faibles, il faut faire l'effort de relever ses points faibles, les travailler progressivement. Je vous promets, je vais revenir sur cet aspect la prochaine fois et je continuerai sur les autres aspects et qui consistent par exemple à accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est important dans la vie. Servir des situations pour mieux se propulser. C'est le septième point. Chaque porte, chaque problème a une solution. Chaque porte a une clé. Savoir reculer pour mieux sauter. Se concentrer sur son potentiel, on verra ça. Penser à ce que nos efforts peuvent porter du fruit. Voir qu'un chemin est tracé dans le désert. Donc, ces cinq derniers points, la prochaine fois, je vous le promets, par la grâce de Dieu, je vais les développer et nous comprendrons que nous pouvons être des leaders vainqueurs dans tous les domaines. Prions maintenant. Père Céleste, que ta grâce demeure sur tes enfants qui suivent cette émission, que ta grâce repose sur leur vie et que ta puissance les visite, Seigneur. Si quelqu'un passait par l'échec, qui comprenait que l'échec n'est pas un problème, l'échec est simplement un tunnel qui le conduit vers le succès. Je déclare cela dans le nom de Dieu que nous arrête. Je déclare aussi que rien n'est jamais perdu définitivement, ni acquis. Nous avons compris aussi ce jour-là qu'avec toi, tout est possible. Pourquoi? Mais parce que tu es le Créateur. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Et afin que nous soyons des hommes et des femmes vivants, victorieux, forts, puissants, qui sont à mesure de transformer notre environnement, de devenir une source de bénédiction. Je te remercie pour cela. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. On garde le contact. Ne lâchez pas cette émission. Ne la lâchez pas. Soyez en connexion. Et nous nous retrouvons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen.
En eau profonde, une série de messages qui vous conduisent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le message que vous venez de suivre a été donné par le pasteur Gadji Abraham. Pour toute information relative à ce message, veuillez nous contacter au 00225-0202-81-91 ou au 00225-0744-1244. À très bientôt.